CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois. Je vais l'écouter.
Un peu Wixel Mag, édition de ce mardi 6 janvier. Bonjour tous, vous venez nous rejoindre, soyez les bienvenus et hello, coucou, salut. DHP, Nat et Loulou en studio, oui. C'est la première de l'année. Alors bon, bah, santé, voilà. Bonheur.
Santé, bonheur, à vous. Meilleurs vœux.
Sous plein de bonnes choses.
Oui.
Vous allez, d'ailleurs, c'est cette première de l'année, oui, dédiée à vos vœux, aux vœux des HP, un local.
Ouais, plus grand. Local.
Une annexe.
On a de
oui,
cesse de
ça serait pas mal, ça.
Non, un petit programme parce que bon, c'est calme partout à Villefranche et les oui, environs.
Oui,
oui, un mois de janvier au haut-parleur relativement calme. On va tranquillement remettre le pied à l'étrier. On va vous détailler avec Nathalie un petit peu le programme de cette semaine. Et on va faire un retour aussi sur un petit peu quelques nouveautés en termes de logistique au niveau du bar. Et on va reparler un petit peu du marché de Noël. Et puis on parlera aussi de l'importance d'adhérer à notre association.
Du bénévolat.
Et la soirée, bah justement, des bénévoles, c'est ce soir.
Oui, c'est ce soir, autour d'un repas plutôt auberge espagnole et d'une galette des rois. Et du cidre, mesdames, messieurs.
Les haut-parleurs.
Je n'en sortirai que par la force de baïonnette.
Ouais, je vais manger.
Allez.
Alors, cet après-midi, grand ménage de d'hiver, quoi, pour la réouverture du bar avec Darshan et Julie. Et ce soir, le rendez-vous mensuel des bénévoles. C'est ce soir autour d'un repas. Avant, c'était le pique-nique des bénévoles.
Oui, maintenant, c'est une nouvelle formule.
Maintenant, c'est une nouvelle formule initiée par Julie et Darshan. Là, la thématique, c'est un peu auberge espagnole et galette des rois. Comme je le disais en introduction, l'occasion de découvrir un petit peu le programme du mois de janvier, de s'inscrire sur notre planning, d'être force de proposition pour des repas du jeudi, et toutes les envies, enfin, sont bonnes à prendre, et n'hésitez pas, quoi. L'occasion de rencontrer aussi l'équipe et de passer un petit moment tranquille au bar mardi soir.
Et peut-être des vocations pour être bénévole.
Oui, des vocations pour être bénévole. Et on va le répéter dès maintenant.
Voilà,
une
toute
des conditions.
L'année, on va vous le seriner. Oui.
Et
une
des conditions, mais ça, les adhérents des haut-parleurs le savent. Et bien, pour être bénévole, il faut être adhérent. C'est pas une obligation, mais ça doit le devenir quand même à moyen terme pour une question d'assurance et de responsabilité dans les cuisines, à manier les couteaux, trifouiller le four.
Normal, hein.
Voilà. Alors, on lance un petit appel pour ce début d'année 2020. Adhérer aux haut-parleurs, c'est parti, mon kiki.
Oui, et puis aussi, si vous voulez être bénévole, oui, faut que ça tourne, oui, parce que à force, les gens ils se lassent un peu et. Faut toujours des nouvelles têtes.
Dès cette semaine, on va retrouver au bar, dès jeudi, il y aura Marc qui va animer une table d'adhésion qu'on va essayer de laisser un petit peu tout le mois de janvier, voire février. Voilà, rendre un peu plus visible aussi cette boîte pour adhérer à l'assaut des haut-parleurs. On peut rappeler le tarif ?
Oui.
C'est 10 euros par personne et 30 euros pour les associations qui souhaitent aussi après utiliser le lieu pour une assemblée générale ou une soirée festive.
Voilà, et on rappelle que pour être bénévole, il faut pas avoir des dons extraordinaires.
Non.
Tout le monde sait faire quelque chose et il suffit d'avoir un petit peu de bonne volonté, mm-hmm, et un tout petit peu de temps. Et après, on aménage en fonction des capacités de chacun, mm-hmm, et du temps disponible. Mm-hmm. Ça peut être une heure, une fois de temps en temps. Ça peut être une demi-journée régulièrement. Mm-hmm. Toutes les formes sont possibles.
Alors, dès demain mercredi, c'est la préparation du repas de jeudi. C'est du chili con carne qui est proposé par une bénévole dont j'ai oublié le nom, je m'excuse.
Donc, si y a chili con carne, il y a chili sin carne.
Il y a chili con carne et sin carne, oui.
Forcément.
Donc demain après-midi, venez l'aider à préparer tout ça, si vous avez du temps à consacrer aux haut-parleurs. On continue jeudi, on sera le 9 janvier. C'est le vernissage de l'expo d'Ignacio à partir de midi. Superbe expo à découvrir. C'est très coloré, c'est beaucoup de références autour de Villefranche avec des dessins, avec une jolie petite collégiale. En
fait. Je dirais que c'est très sud-américain.
C'est un côté sud-américain, un peu décalé aussi.
Il est d'origine...
Oui.
Je ne sais plus de quel pays.
Du Mexique.
Oui. Mexique, voilà.
Mexicain d'origine.
Et,
oui.
Et tu le sens quand tu vois sa peinture, c'est les couleurs de là-bas, de l'Amérique du Sud.
Ouais. On a Ignacio qui expose tout le mois de janvier. Vraiment, ça vaut le coup, ça vaut le coup.
Uh-huh. C'est très beau ce qu'il fait.
Ensuite, on continue, on a quoi?
Bah, on n'a pas grand chose cette semaine.
Cette semaine, hein,
c'est reprise. Hein.
C'est vrai que c'est la reprise, on n'a pas grand chose. Après, on peut commencer à parler un petit peu des rendez-vous réguliers aussi. On a l'atelier de la française jeudi après-midi avec Alexandre. Et puis pour cette semaine, pas grand chose. Voilà. C'est à peu près tout.
Oui, et puis on peut aussi faire un petit retour en arrière, on aime bien des fois,
oui.
Sur le petit marché de Noël,
oui,
qui a été vraiment un succès cette année.
Qui s'est tenu le samedi 21 décembre.
Il y a plein de gens qui vendaient des trucs, ouais. Et puis c'était super sympa, très varié. Et puis voilà, puis on pouvait juste venir boire un coup.
Oui, on a passé vraiment un très bon moment, quoi.
C'était le moment de se voir un petit peu avant les fêtes, là, avant les vacances. Donc c'était très sympa, moi, j'ai trouvé.
Oui, il y a eu pas mal de monde. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Moi, j'aurais bien aimé aussi annoncer des choses pour l'année 2020 en termes de projets. Il y a plein de choses dans les tiroirs, au niveau de l'espace de vie sociale aussi. Mais ça, on invitera Julie pour en parler aussi. On prévoit pas mal de partenariats, que ce soit avec Beauregard, enfin des choses autour de la thématique du numérique aussi, et des écrans. Ça, on recevra Julie pour en parler un peu plus longuement. Et après, on continue sur les concerts, sur les expos, sur les ateliers.
Il y a des petits aménagements aussi là qui vont être faits au niveau matériel.
Ouais, au niveau logistique, on a un peu investi dans des choses. Bon, voilà, on a une imprimante, super ordi, on a branché du bon son derrière le bar. On a des frigos, enfin tout va bien.
Pour le numérique, nouveauté 2019, c'est l'intervention de Lou qui aide pour ceux qui nagent un peu avec, avec l'internet. Internet,
oui,
notamment.
Pour l'instant, aucun rendez-vous. Enfin, Lubna tient une permanence en janvier, je ne crois pas qu'il y en ait, mais dès février, oui. Mm-hmm. Pour assister un petit peu les personnes qui paniquent devant leur écran, que ce soit pour refaire une carte grise, pour des soucis comme ça, enfin, souvent administratifs. Et Lubna tient une permanence, ce sera à partir de février, tous les samedis après-midi, autour du numérique.
On peut faire des propositions, une exposition, une soirée,
un concert.
Eh bien
oui, si on a des idées, si on a envie de faire quelque chose, on nous demande, et évidemment, si ça correspond à l'esprit du lieu, eh ben, c'est les gens aussi qui font le café.
Oui.
C'est pas seulement ce que le café propose.
Tout à fait, ce sont les bénévoles qui sont moteurs de ce bar associatif.
Bénévoles ou simplement des gens...
Même adhérents ou simplement...
Je me rappelle du monsieur qui allait toujours chercher son épouse à côté, au Secours Pop. Et puis un jour, il nous a dit qu'il voulait nous présenter un truc de diapo sur Madagascar. Et du coup, on a fait toute une soirée sur Madagascar et c'était vraiment génial. Et c'est lui qui avait proposé cette idée en passant comme ça.
Avec un repas à la clé.
Avec le repas malgache.
Oui, il y avait eu un repas malgache, il y avait eu des chansons, il y avait des gens qui étaient venus de Toulouse. C'était génial.
De l'envie et de l'enthousiasme.
Oui. Voilà.
Juste. 34 rue Alibert, on suit votre actualité sur la page Facebook, sur le site internet, et c'est www.leoparleur.com. Et puis, l'adhésion, c'est le mot de ce début d'année pour les associations, comme pour les bénévoles, et toute personne qui souhaiterait rejoindre l'élan du café associatif Léo Parleur. Le repas des bénévoles, ce soir, moi je m'attendais à une tartiflette, parce qu'il y a eu raclette qui a eu un beau succès.
C'est vrai,
mais bon, voilà, auberge espagnole pour ce soir.
Et galette des rois.
Et là, cet après-midi, c'est...
C'est le grand ménage.
C'est le grand ménage. Donc,
on retrouve aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a Gisèle qui propose toujours l'atelier tricote et papote. Ouais. Voilà, pour les personnes qui souhaitent discuter tranquillement.
On refait un point sur les ateliers réguliers, les rendez-vous réguliers du café associatif la semaine prochaine. Petit rappel comme ça de principe de début d'année. Santé, bonheur, santé, bonne humeur.
Ah, c'est ça.
Allez, zoup, voilà, de la musique, et j'accueille en studio Maryse Calvet. Conférence de l'Université populaire des savoirs partagés concernant les élections américaines avec un spécialiste de la politique américaine, Jean-Éric Brana, qui est bien occupé en ce moment avec la géopolitique. Deuxième conférence de l'année de l'USP présentée par Maryse Calvet ce soir 18h30 au lycée Beauregard pour le lieu. Allez, belle journée, ciao.
À bientôt.
Bonne journée.
Suite de cette édition du magazine d'actualité avec en studio, comme annoncé, Maryse Calvet. Maryse, bonjour.
Bonjour David.
Maryse Calvet de l'Université populaire des savoirs partagés pour évoquer l'intervention de Jean-Éric Brana au lycée agricole et agroalimentaire Beauregard autour des élections américaines et notamment de cette 59e élection présidentielle. Avant toute chose, vous avez peut-être des vœux à adresser au nom de l'Université populaire des savoirs partagés, plus de spectateurs aux conférences, encore que la dernière samedi a une nouvelle fois rencontré un réel succès et vous avez même été obligé de refuser du monde.
Voilà, donc il ne me reste qu'à souhaiter que toutes nos conférences connaissent le même problème, hein, c'est-à-dire qu'on soit obligé de refuser du monde et qu'on ne trouve pas assez de chaises. Non, nous n'aurons pas, j'espère, de nouveau ce problème, puisque là c'était pour un changement de date, ouais, de jour et de lieu.
Et d'heure.
Hein, donc nous étions un peu inquiets. Finalement, la conférence a eu beaucoup de succès. Non seulement le public était nombreux, mais très content de la conférence et du conférencier. Donc voilà, nous pouvons souhaiter simplement pour 2020 que ce succès continue et qu'il se traduise dès la prochaine conférence, c'est-à-dire dès ce soir.
Souvent, les conférenciers qui interviennent sont dans l'actualité. On les voit sur les plateaux télé. Alors ça, vous pouvez pas le prédire et le programmer puisque vous faites le programme longtemps à l'avance. Là, pour le coup, les élections américaines, au regard des tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran, peut-être que Jean-Éric Brana, qui est un spécialiste de la politique américaine, apportera quelques éléments en plus de la conférence autour du fonctionnement de ces élections toutes particulières aux États-Unis.
Oui, alors ce sont effectivement les deux points d'intérêt de cette conférence, c'est-à-dire que d'une part, et si je m'en tiens au livre qu'il a publié sur intitulé « Et s'il gagnait encore », d'une part, Jean-Éric Brana explique de manière très simple, très claire, le fonctionnement
confus pour nous de ce système électoral, avec toutes les étapes de cette longue campagne électorale. Et, mais en plus, effectivement, il expliquera le contexte géopolitique très particulier, et on pourrait dire même qui chaque jour presque nous réserve des surprises, pour appréhender le climat dans lequel les élections vont se dérouler.
C'est un marathon, hein, les élections américaines. On peut le décrire comme ça, ça s'étale sur des semaines et des semaines, et un fonctionnement donc totalement indirect.
Oui, oui, bien sûr, c'est un vote au suffrage universel. Ça veut dire que tous les Américains votent, mais ils votent dans un premier temps pour désigner des représentants, représentants avec donc des sénateurs et des représentants de chaque État, qui vont ensuite se réunir et très très tardivement par rapport au début de la campagne, puisque la campagne réelle et les premières, les primaires vont commencer en février et l'élection définitive va se produire qu'en novembre, le 3 novembre, pour donner lieu à un président qui sera investi en janvier de l'année d'après. Donc effectivement, comme vous le disiez, c'est une très longue course, c'est un marathon, mais comme le dit Jean-Éric Branard, qui se termine d'une manière très rapide, par un sprint dans lequel tous les coups sont permis et toutes les surprises aussi sont possibles.
À l'américaine, on pourrait même dire. C'est aussi obscur pour nous en termes de démocrates, républicains, difficile de comparer à notre système français, droite-gauche. On a peu de repères, en fait, pour comprendre le fonctionnement précis de ces élections présidentielles aux États-Unis.
Oui, effectivement, parce que s'il y a ces deux grands partis, qui se partagent l'électorat. Il y a aussi des candidats qui se présentent sans étiquette et il y a aussi, à l'intérieur de ces partis, par exemple chez les démocrates, on va voir de très grandes divergences, hein, avec, on pourrait dire chez nous, des variations très très grandes, entre des engagements très grands entre ceux qui seraient considéré pour nous comme une gauche très progressiste et ceux qui sont plutôt du côté des conservateurs et qui s'appellent quand même, qui font partie du clan des démocrates. Et je ne parle pas des candidats qui ont eu des parcours aussi assez parfois, changeant et qui sont passés d'un parti à l'autre. Par exemple,
des transfuges.
Oui, il y a des transfuges ou en tout cas des évolutions. Par exemple, un des candidats importants des démocrates s'appelle Bloomberg, qui est un ancien maire de New York, a été maire de New York avec en tant que républicain et il est maintenant dans le camp des démocrates. Donc, ça montre que les frontières ne sont pas étanches. Ni à l'intérieur des partis, ni d'un parti à l'autre.
On trouve même des républicains démocrates ou des démocrates républicains.
Voilà.
Est-ce que, je crois savoir que des États ont plus d'importance que d'autres, pourquoi ?
Alors oui, c'est fonction de la population.
La démographie.
Il y a des États qui sont très peuplés, donc ils vont envoyer. Enfin, chaque État va envoyer deux sénateurs. Donc il y a 100 sénateurs qui vont être parmi les électeurs pour la présidence. Mais ensuite, pour les représentants, le nombre de représentants est fonction de la population de l'État. Alors effectivement, certains États vont envoyer beaucoup plus de représentants que les tout petits États.
Ce qui représente au total 538 grands électeurs, je crois qu'on les appelle comme ça. Et donc, pour rafler la présidence, il faut à minima 270 voix de ces grands électeurs pour gagner la présidence.
Alors, par exemple, la Californie, qui est l'État le plus peuplé, envoie 55 représentants. Le Texas en envoie 38. Mais les États, il y a 7 États qui sont les moins peuplés, qui, eux, vont n'envoyer que 3 électeurs. Donc, effectivement, dès les primaires, tous les candidats vont bien observer les résultats des primaires, parce qu'avec ces résultats-là, ils pourront savoir combien de représentants ils vont envoyer pour l'élection qui aura lieu au mois de novembre. Et si les électeurs votent bien pour le candidat pour lequel ils étaient inscrits, ils peuvent déjà, très rapidement, savoir le nombre de sièges qu'ils pourront avoir, et effectivement, donc, l'élection est déjà presque, peut être déjà, enfin le résultat peut être déjà presque connu.
Alors j'ai appris un mot, des caucus, voilà, peut-être une petite explication de ce terme.
C'est un mot qui est intéressant, on ne sait pas trop l'origine, on pense qu'il est anglo-saxon, qu'il vient même de l'algonquin. On ne sait pas trop le définir, le traduire, mais ce qu'on sait, ce que les électeurs américains savent faire, c'est expliquer en quoi ça consiste. Donc c'est un système de représentation qui se fait dans certains États, qui est considéré même pour les Américains aujourd'hui comme un moyen un peu archaïque de désigner ses représentants. Donc il n'existe donc dans 12 États et il est progressivement en voie d'abandon parce que il demande à ce que tous les candidats et tous les représentants de ces candidats soient présents dans un même lieu, en même temps. Et ça se produit d'une façon assez particulière, un peu théâtrale, où au moment où commencent les discussions, les partisans de chaque homme politique doivent aller dans un coin de la salle, se réunir dans un coin de la salle. On compte donc dans quel coin de la salle il y a le plus grand nombre de partisans. Et donc on élimine celui qui a le moins de voix, enfin de représentants, et puisqu'il est éliminé, les autres peuvent se répartir sur les autres coins de la salle pour aller soutenir quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu archaïque, et puis surtout c'est que ça demande, c'était une époque quand ça a été mise en vigueur, les gens se déplaçaient peut-être plus facilement, ou en tout cas plus volontairement que maintenant. Donc comme ça demande une participation physique dans un lieu donné, et il y en a un dans l'État, c'est vraiment plus adapté au système électoral actuel. Donc c'est progressivement abandonné. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un mot qui est intéressant, puisqu'on ne l'entend que dans ce contexte-là, même s'il paraît qu'il est aussi utilisé en Suisse. Il y a d'autres pays qui l'utilisent. Et il paraît que même dans le sport, quand les joueurs se réunissent dans un coin du terrain pour mettre au point la stratégie qu'ils vont mettre en pratique. C'est un caucus. Voilà.
D'avance, une conférence passionnante, les élections américaines portées par Jean-Éric Branat, qui n'est pas là au hasard. On ne l'a pas encore présenté. Peut-être un petit mot sur le conférencier.
Alors, il est maître de conférence à Paris, à Sas. Il est chercheur au Centre Thucydide. Chercheur associé à l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. On a fait venir déjà un certain nombre de conférenciers de cet institut. Il est surtout connu comme spécialiste de langue anglaise et spécialiste de la politique et de la vie économique aux États-Unis. Il a fait d'ailleurs ses études aux États-Unis, en tout cas une partie, et il a écrit un très grand nombre d'ouvrages sur la vie politique de tout le XXe siècle aux États-Unis. Donc il s'intéresse à ce qui se passe actuellement. Et le livre qu'il dédicacera à la fin de la conférence, c'est « Et s'il gagnait encore ?» Mais il a écrit, il vient de publier, là, tout récemment, un autre livre intitulé « Joe Biden » ou « Le troisième mandat de Barack Obama » où il explique que donc Joe Biden, étant vice-président d'Obama, pourrait, s'il était réélu, reconduire la politique d'Obama.
C'est la 59e élection présidentielle aux États-Unis, à suivre comme un match de basket, mais sur plusieurs mois. Et on en aura l'ensemble du décryptage ce soir au lycée Beauregard à partir de 18h30, les élections américaines. D'autres choses dans l'actualité de l'Université populaire des savoirs partagés, une lecture et la nuit de la lecture, lecture théâtre et nuit de la lecture le 18 janvier également.
Voilà. Ah oui, alors je voudrais rapidement annoncer le spectacle que nous organisons le jeudi 16 janvier à 15h dans l'amphithéâtre du lycée François Marty, boulevard de Pennevers, c'est-à-dire à Villefranche. Une séance qui n'est pas une séance de lecture, mais une pièce de théâtre sur le thème de la lecture, où l'auteur, le metteur en scène et le comédien, raconte la découverte et le bonheur du plaisir de la lecture avec tout ce qu'elle peut apporter dans une vie et comment elle peut aider à passer les épreuves, etc., et à embellir la vie. Donc ce spectacle qu'on recommande, qui est ouvert à tout le monde, sur possibilité de réserver à la permanence de l'USP ou de se présenter directement dans l'amphithéâtre du lycée François Marty. Ce spectacle est ouvert à tout le monde et bien sûr, nous le recommandons chaleureusement. Il nous semble être une bonne introduction à la nuit de la lecture qui se déroulera, donc, comme vous l'avez dit, le 18 janvier. Nous sommes l'USP et partenaire avec La Folle Avoine pour la soirée qui se déroulera dans la pièce des Fleurines, à l'hôtel des Fleurines, avec, donc, qui débutera à 19h30 avec un petit repas pris ensemble pour ceux qui le veulent. Et ensuite, des lectures données par Michel Géniaud, qui a choisi un livre estonien. Et il sera accompagné, la lecture sera accompagnée et interrompu et accompagné à la harpe par Eva Géniaud, qui va non seulement jouer de la harpe, mais aussi chanter comme elle sait si bien le faire.
Le 18 janvier à l'hôtel des Fleurines, et c'est en matinée pourtant qu'il y aura des coquelicots, cette représentation proposée par l'Université des Savoirs Partagés que l'on rencontre rue du Sergent Bory, avec des permanences tout au long de la semaine. Merci Marie Scalvet d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, belle journée.
Merci à vous.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h30, la vie du Villefranchois.